La première séance présentait les enjeux scientifiques en termes de biodiversité, en termes de climat et de changement climatique, en termes éducatifs et en termes de développement et de coopération. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à ces enjeux avec tout d'abord Clélia Chevrier-Kolatchko, qui est sous-directrice de l'enseignement supérieur et de la recherche à la Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement du ministère des Affaires étrangères et du développement international à Paris. Merci Clélia.
Mesdames et messieurs les membres de l'Académie, chers collègues, répondre aux enjeux du développement durable est une priorité forte du ministère des Affaires étrangères, qu'il décline à la fois dans sa politique globale d'aide au développement et plus spécifiquement au travers de sa diplomatie scientifique. Notre action en matière scientifique est double. Au niveau des pays en développement, tout d'abord, nous faisons en sorte de soutenir leur accès à la science afin qu'ils soient capables de relever les défis économiques, environnementaux, sociaux et culturels de développement. Et au niveau mondial, enfin, nous sommes actifs pour renforcer la place de la France dans le débat et dans la prise de décision en matière d'enjeux globaux. Pour soutenir l'accès à la science des pays en développement, nous avons plusieurs angles d'attaque et nous avons plusieurs objectifs. Un de nos objectifs est bien sûr la formation des jeunes chercheurs par le biais de programmes de mobilité. Mais en amont, et je ne m'étendrai pas dessus parce que ça a été présenté un peu auparavant, clairement, pour avoir ce volant de jeunes chercheurs, il faut auparavant avoir eu des enfants qui ont été formés aussi à la science. Et c'est la main à la pâte, notamment, qui travaille beaucoup avec nos postes pour développer cette culture-là de la science. Donc, formation des jeunes chercheurs, autonomisation des équipes locales et leur insertion dans des réseaux scientifiques non seulement internationaux, mais aussi régionaux, ces réseaux sud-sud dont on parle souvent. La grande variabilité des potentiels scientifiques entre les pays nécessite vraiment cet appui aux réseaux régionaux. Ce sont des stratégies qui, en privilégiant l'échelle régionale, permettent de favoriser la complémentarité et d'appuyer la mise en commun de toutes les infrastructures scientifiques de ces pays. Troisième objectif, c'est le renforcement de l'expertise nationale. C'est ce qui permet d'apporter des réponses aux décideurs politiques, des réponses locales, et du coup de mieux renforcer leur compréhension, leur acceptation par les autorités et les populations locales, et de permettre à ces pays d'être acteurs de leur propre développement durable. Enfin, nous mettons en œuvre des initiatives concrètes dans les pays en développement pour assurer le développement des institutions de recherche et d'enseignement et d'éducation dans les pays les plus défavorisés. Quels sont les biais, quels sont les moyens que nous utilisons sur le terrain, mais aussi à Paris ou dans les institutions multilatérales pour ce faire? Nous participons d'abord au financement et au copilotage d'instituts d'organismes de recherche au service du développement, notamment l'Institut de recherche pour le développement qui intervient aujourd'hui, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement également, le CIRAD, qui sont très fortement présents sur le terrain dans le monde entier et dont nous soutenons également la mutualisation des actions avec celle de tous les autres acteurs du développement. Cette équipe France dont on parle souvent et qui est importante pour nous, qui est importante pour la visibilité et l'action de la France dans le monde. Un autre axe, c'est le soutien à des programmes de recherche ciblés qui participent à la fois au renforcement de résultats de recherche, mais aussi au renforcement des équipes de recherche scientifique et qui permettent la mise en place de réseaux de recherche. Je pense, par exemple, pour l'Afrique, à un réseau qui s'appelle PARAF, le programme d'appui à la recherche en réseau en Afrique, qui est soutenu par un fonds de solidarité prioritaire. Je pense aussi au programme EnviMed, qui a soutenu en 2015 10 projets en recherche sur le développement durable en Méditerranée. Autre axe, c'est le soutien à la mise en place de structures de coopération délocalisées, notamment dans le domaine médical, où la France a bien sûr une expertise particulièrement reconnue dans le domaine, par exemple, de maladies tropicales. Je pense ici au réseau des instituts Pasteur et de l'Agence nationale de recherche sur le sida, dont la présence va soutenir à la fois l'émergence de jeunes équipes et dont l'équipement en moyens technologiques va permettre aussi de conserver ces jeunes équipes sur place dans ces pays, de lutter contre la délocalisation, de la fuite des cerveaux hors des pays. Nous finançons également une quarantaine d'experts techniques internationaux dans le domaine de la recherche en général et souvent sur des objectifs de développement durable. dans notamment les domaines de la santé, de l'agronomie ou auprès des autorités locales, que ce soit auprès du ministère de la Recherche, de l'Éducation, ce qui leur permet de bénéficier d'une expertise qualifiée, d'un appui institutionnel. C'est une approche qui est encore assez spécifique à la coopération française, qui privilégie une approche approfondie du terrain et le temps long, qui est le mieux adapté, vous le savez, à la recherche scientifique. Autre angle d'attaque, c'est le soutien à des programmes bilatéraux qui vont là financer la mobilité des chercheurs, la mobilité des capacités de recherche dans des zones géographiques regroupant plusieurs pays parfois. C'est là tout l'enjeu des programmes ubercuriens qui sont généralement financés conjointement par la France et par le pays d'origine des chercheurs avec lesquels nous travaillons, ce qui permet de motiver encore plus ces pays ensuite à réintégrer les chercheurs au mieux et à utiliser à leur profit les recherches effectuées. Enfin, je dirais qu'un des rôles de la diplomatie scientifique actuellement, c'est de soutenir tous les pays en développement, aussi dans la recherche de financements internationaux, que ce soit auprès de bailleurs multilatéraux ou également auprès de l'Europe. Et c'est là tout le rôle, par exemple, des programmes IRANET. Donc, parallèlement à ce travail de soutien au niveau des pays en développement, nous avons également pour objectif diplomatique de renforcer la place de la France dans le débat en matière d'enjeux globaux et de garantir la prise en compte de nos analyses scientifiques, des analyses des positions françaises dans la prise de décision. Les diplomates travaillent ainsi à renforcer la place de la France dans les panels scientifiques internationaux susceptibles d'orienter les décisions politiques sur les enjeux globaux, que ce soit bien sûr le GIEC, le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité, ou le groupe d'experts chargé actuellement de la rédaction du rapport mondial sur le développement durable. L'intégration au ministère au sein d'une unique direction générale de la mondialisation, alors c'est un titre un peu grandiose, mais c'est quand même très utile. Ça permet d'avoir un outil regroupant tous les services suivants, à la fois la coopération scientifique, la préparation des grandes échéances multilatérales, la négociation diplomatique dans des domaines variés, que ce soit économique, du développement, de la gestion des biens publics mondiaux. Et tout cela permet de promouvoir de manière globale la présence de scientifiques français dans toutes les enceintes internationales et de relayer aussi leurs analyses dans les négociations sur tous les sujets qui ont trait aux enjeux globaux, que ce soit le climat, la biodiversité, la sécurité alimentaire, les migrations, le développement. Bien sûr, les deux exemples très concrets qui sont à la base du colloque aujourd'hui sont ici des belles illustrations de ce que peut faire cette imbrication entre les diplomates et les scientifiques au niveau mondial. C'est le cas, bien sûr, de l'adoption de l'accord de Paris, qui est déjà ratifié par une soixantaine de pays. Il a mobilisé et il va continuer de mobiliser nos organismes de recherche en entraînant derrière eux les communautés scientifiques des pays avec lesquels nous collaborons. C'est un exemple concret d'un diagnostic partagé et largement posé par des scientifiques et dont la diplomatie s'est ensuite pleinement emparée pour le mettre en œuvre à un niveau politique, diplomates multilatéraux dans des enceintes multilatérales, mais également attachés scientifiques bilatéraux, ambassadeurs aussi, ont œuvré pour mieux expliquer les positions, les enjeux, pour rallier les indécis et pour élever le débat politique international à la mesure du défi scientifique mondial. Et je voudrais d'ailleurs saluer au passage le rôle de notre ambassadrice déléguée à la science, la technologie et l'innovation, Madame Bréchignac, qui vient justement, qui a un lien précieux entre le monde scientifique et diplomatique, et qui est par ailleurs secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Donc c'est cette manière d'imbriquer nos mondes qui est vraiment très utile aujourd'hui. Autre exemple, c'est bien sûr l'adoption en septembre 2015 aux Nations Unies de l'agenda du développement durable, après de longues années de négociations. La France, là encore en lien avec la recherche française et francophone, a joué un rôle déterminant dans le processus qui a conduit à son adoption ultime. De façon générale, sur chacun des 17 objectifs retenus, la science a permis de poser des diagnostics, de prédire des tendances, de dégager des scénarios. Et ce faisant, elle a suscité et accompagné le besoin de politiques publiques et de cadres internationaux. et la diplomatie française scientifique a œuvré en faveur d'un transfert depuis les lieux où cette science est élaborée, les laboratoires, les universités, les terrains d'expérimentation, vers un niveau politique qui lui permet d'irriguer plus largement la société. Et je citerai enfin le prochain comité interministériel de la coopération internationale et du développement, le CICID, qui met en œuvre, qui définit les politiques de développement de la France de manière, là encore, au sein de l'équipe France. Celui-ci, prévu fin novembre, doit confirmer encore plus la place de la coopération scientifique au cœur de l'aide française au développement, comme l'a confirmé M. Valigny fin octobre. Je vous remercie.